Radio Okapi.
Situation tendue ce samedi dans la partie ouest du groupement Bachali Mokoto Nord Kivu, et ce après d'intenses combats hier vendredi entre deux factions Nyatura, une situation qui a occasionné des déplacements de la population. Le phénomène croissant de construction des stations-service à Kinshasa et même à l'intérieur du pays, aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale, est déploré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a fait savoir hier vendredi lors du 62e Conseil des ministres. Enfin, nous recevons dans cette édition le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé. Il est le maire de la ville de Beni. Il nous parlera des mesures prises par les autorités pour protéger la population de Beni qui vient d'être victime d'une double attaque des ADF. Et voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation restait tendue ce samedi dans la partie ouest du groupement Bachali Mokoto après d'intenses combats hier vendredi entre deux factions Nyatura. C'est à une vingtaine de kilomètres ouest de Kichanga dans le territoire de Masisi. Les sources locales indiquent que ces affrontements ont occasionné un déplacement massif des populations civiles de la zone. Bernard Nyangi.
Selon nos sources dans la zone, le dissident du chef milicien Jean-Marie, qu'elle disait être complice de la rébellion du 1-23, venait déjà d'occuper plusieurs villages dans la zone. À l'issue des affrontements qui ont duré toute la journée hier vendredi, ce dernier aurait été délogé de Kivu, Yempati, Bweru, Kikoa et Luanga, entre autres. Si un calme précaire s'observe dans la zone ce samedi, tous les villages restent vidés de leurs habitants, qui auraient fui vers Kirumbu et Busumba notamment. C'est la deuxième fois cette semaine que les deux factions dissidentes du groupe armé Nyatura Jean-Marie s'affrontent dans cette partie du territoire de Masisi. C'est après les affrontements de mardi dernier qui avaient fait au moins deux blessés et un mort parmi les civils, en plus d'un déplacement des populations, précisent les sources coutumières locales. Toute cette partie de la chefferie de Bachali reste dégarnie de positions effardées depuis quelques mois déjà, déplorent nos sources. Celles-ci plaident pour le redéploiement des forces de sécurité nationale pour restaurer l'ordre dans cette zone où seuls les Maïmaï et les Nyatura font la loi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Toujours au nord qui vont plus bref, les FARDC ont repoussé dans la nuit de vendredi à ce samedi une nouvelle attaque des ADF à Rwangoma, un quartier de la commune de Beou à Beni. Selon le maire de la ville, les assaillants ont fait face à une résistance des militaires déployés dans une position des FARDC située dans la cellule de Mbelou de ce même quartier. Ils ont ensuite été repoussés par l'armée. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé indique que la position militaire était incendiée par les assaillants pendant leur fuite. Aucune perte en vie humaine n'est signalé. Le maire de Beni rassure que la situation est sous contrôle des FARDC. Mardi dernier, une autre attaque des ADF a coûté la vie à 7 civils, toujours au quartier Rwangoma de la ville de Beni. Et puis, dans le territoire du Rumu en Ituri, 15 personnes, dont 12 enfants, ont été enlevées ce matin par des rebelles des ADF au village Kiangenda. C'est à une centaine de kilomètres de la ville de Bunia. La société civile locale qui confirme cette information renseigne que ces rebelles se sont introduits dans ce village vers 5 heures ce matin en tirant plusieurs coups de feu pour intimider la population. Aussitôt alertée, l'armée s'est déployée sur place pour pourchasser ces assaillants. Malheureusement, ils avaient déjà pillé plusieurs maisons d'habitation ainsi que des boutiques et pharmacie, ajoute le vice-président de cette structure citoyenne, Albert Bassé, qui plaide pour le renforcement de l'armée dans cette zone pour protéger la population. Pendant ce temps, à Kalemi, des cas de cambriolage sont enregistrés dans la commune de Lalukuga. En l'espace de 48 heures, plusieurs maisons ont été visitées par des hommes munis d'armes blanches. D'après des témoins, deux femmes ont été blessées et plusieurs biens emportés. Le point avec Paulin Munanga.
Des témoins annoncent que vers 1h du matin de ce vendredi, des hommes non autrement identifiés qui étaient cagoulés et munis d'armes blanches ont opéré dans 6 maisons. Ils ont cassé des vitres et portes et ont emporté de l'argent et autres biens de valeur. Dans la même commune, cette fois dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des malfrats se sont introduits par effraction dans 3 maisons. Selon des témoignages, ils ont administré des coups à 2 femmes dans différentes maisons. Ils ont emporté argent et biens matériels. Plusieurs sources indiquent que les bandits ont opéré en toute quiétude. Les habitants de cette partie de la ville de Kalemi demandent de l'aide aux autorités. Ils soulignent que les patrouilles de la police n'arrivent pas dans leur milieu et ils se sentent abandonnés. Au commissariat provincial de la police du Tanganyika, On dit ne pas être encore au courant de cette information. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Et puis au Kassai Oriental, le gouverneur de province a attribué une concession au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le territoire de Tshilenge. C'est pour construire des abris destinés aux retournés d'Angola. Les trois arrêtés portant attribution de cette concession ont été remis ce vendredi aux membres de cette agence du système des Nations Unies. Des explications avec Esther Ndalafina.
À Benachi Lobo, dans le village de Bena Kansapuila, chefferi de Bakwa Kalonji, dans le territoire de Tshilenge, sera désormais prolongée d'une superficie de 175 hectares à celle déjà existante, dénommée terrain déplacé d'Angola. Cet espace est le lieu indiqué actuellement pour accueillir les retournés d'Angola, les déplacés internes et quelques ménages de la population hôte. Cela grâce à l'autorisation attribuée ce vendredi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés par le gouvernement provincial du Kassai Oriental. D'après Fofana Mamadou, chef de bureau du HCR Kassai Oriental, cet arrêté va permettre à son institution de mettre en place le projet de construction des abris pour près de 220 ménages des retournés d'Angola, les déplacés internes ainsi que la population hôte vivant dans ce village d'ici la fin de l'année en cours. Selon lui, ce projet prévoit aussi la réinsertion socio-économique de ces ménages à travers les activités génératrices de revenus. Signalons que depuis 2018, le gouvernement provincial du Kassai Oriental fait face à des vagues de déplacés internes, mais surtout des retournés de l'Angola qui sollicitent fréquemment une assistance pour leur réintégration sociale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déploré le phénomène croissant de construction des stations-service qui s'observe dans la ville de Kinshasa et qui gagne progressivement l'intérieur du pays, a affirmé le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Le président l'a dit au cours de la 62e réunion des conseils des ministres qu'il a présidé vendredi 15 juillet à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. Compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a été chargé de faire la lumière sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. On écoute Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Pierrot et Lamégi.
Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions des mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrelatives soient bien tenues. Les chefs de l'État estiment qu'il convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux.
Autre nouvelle, l'Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques en milieu rural et urbain, ANSER, a lancé hier vendredi à Kananga son projet d'électrification pour les 145 territoires que compte le pays. Selon le directeur général de cet établissement, ce programme sera exécuté dans les 6 prochains mois. Pour le Grand Kassai, qui est un espace pilote, il sera question d'électrifier toutes les 5 provinces à travers les 26 territoires. Idesbal Shinamula explique que des mini-réseaux à la fois solaires et hydroélectriques seront construits pour permettre d'alimenter les activités économiques et les ménages. Il est au micro de François Kadima.
Vous savez très bien que au niveau du gouvernement, il a été décidé que l'ANSER prenne les leads dans les 145 territoires sur les questions de l'électricité. Et donc ici, aujourd'hui, le gouvernement a fait déjà un premier geste en nous donnant de l'argent. On nous a donné un budget important et donc nous devions commencer à lancer les programmes sur terrain. Nous avons fait déjà des études. Pour les projets concrets, nous avons ciblé autour de 14 projets concrets. C'est des projets qui ciblent la périphérie, donc l'ensemble des territoires que nous avons ici, 26 territoires de l'espace Grand Kassai qui sont répartis sur les 5 provinces de l'espace Grand Kassai. Et c'est des projets qui consistent à mettre en place des mini-réseaux à la fois solaires, mais aussi hydroélectriques, qui vont alimenter les activités économiques, mais aussi les ménages. Et ces projets ont été présentés, c'est prioritaire. On a un agenda plus ambitieux que ça, mais ce que nous commençons, c'est que nous allons délivrer d'ici les 6 prochains mois. Après, nous y reviendrons sur les autres étapes.
Et puis, cette information pas très bonne. 3 enfants sont morts calcinés par le feu de brousse dans le territoire de Kenge. Nous sommes dans la province du Kwango. Les faits se sont déroulés hier vendredi lorsqu'ils suivaient leurs parents au champ. Le député provincial Willy Fayoulou, qui rapporte l'information, déplore ces désastres et condamne la pratique de feux de brousse dans cette contrée. Il appelle les chefs de ce secteur à prendre des mesures efficaces afin de mettre fin, si nécessaire, à la pratique de feux de brousse pour aussi protéger l'écosystème. Le point avec Irène Mbouma.
C'est précisément dans le village Mbonga Kasese, situé dans le secteur de Kolokoso, à 5 km de la ville de Kenge, que le drame s'est produit l'avant-midi de vendredi dernier. Il s'agit de 3 fillettes qui sont mortes calcinées par l'effet de brousse. Le député provincial Willy Fayoulou est l'élu de Kolokoso. Il relate les faits.
Alors que les parents sont allés donc pour le feu de brousse, 3 fillettes les ont poursuivies. Une fillette de 6e primaire, une autre de 4e primaire et la 3e de 3e humanité. Ils les ont poursuivies et subitement, elles se sont retrouvées encerclées par le feu qui les a calcinées. Donc 2 sont mortes sur place. L'une qui a résisté est allée mourir à l'hôpital.
Tout en déplorant cette catastrophe, Willy Fayoulou condamne la pratique des feux de brousse qui, selon lui, non seulement cause ce genre de dégâts, mais aussi des l'environnement. Il en appelle à la responsabilité du chef de secteur de Kolokoso.
Nous avons déploré ce décès-là et cette histoire de feu de brousse récurrente. On doit arrêter avec le feu de brousse pour protéger aussi l'écosystème. Nous devons protéger l'environnement. Je pense que le chef de secteur de Kolokoso doit prendre des mesures efficaces.
L'élite du peuple condamne aussi le fait que les enfants se retrouvent en forêt sans qu'ils ne soient encadrés par les parents. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit direction Sud Kivu où le gouvernement provincial adopte des mesures fortes pour faire face à la recrudescence des accidents de route qui causent mort d'hommes. C'est notamment l'identification de tous les engins roulants et leurs conducteurs, mais aussi et surtout l'interdiction à certains engins de circuler sur une partie de la ville de Bukavu. Mesure prise au cours du Conseil des ministres provinciaux de vendredi 15 juillet. Des détails avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Parmi ces mesures prises au Conseil des ministres provinciaux de vendredi 15 juillet figure l'interdiction à tous les taxis, motos et tricycles de circuler sur l'avenue principale de la ville de Bukavu. C'est le boulevard Patrice Emery Lumumba allant de la frontière Ruzizi 1er jusqu'au gouvernorat de province. Les gros camions dépassant 10 tonnes sont interdits de circuler dans les rues de Bukavu entre 6h et 20h. L'autre mesure concerne l'identification obligatoire de tous les taxis, voitures et taxibus ainsi que leurs conducteurs. Tous ces engins commis au transport en commun devront être peints avec une couleur unique. Le gouvernement provincial évoque également la suspension de la délivrance des dérogations tenant lieu des documents de bord. Toutes ces mesures et bien d'autres encore sont prises suite à la multiplicité des cas d'accidents mortels dans les rues de Bukavu ces derniers temps. Le dernier cas remonte à jeudi dernier. Des camions sont entrés en collision, faisant 4 morts, beaucoup de dégâts matériels en plein centre-ville. Les principales causes de tous ces accidents restent l'excès de vitesse, la défaillance technique, le mauvais dépassement ainsi que l'ivresse au volant. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis, la province du Maniema occupe la première place parmi les provinces touchées par la poliomyélite, avec 74 cas notifiés sur 94 confirmés en RDC. Cette révélation a été faite hier vendredi au cours d'une réunion de plaidoyer et de souscription de ressources organisées par la division provinciale de la santé et présidée par le gouverneur ad intérim. Pour faire face à ces fléaux, le gouvernement central et ses partenaires organisent dans cette province du 21 au 23 juillet prochain la deuxième phase des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Florence Kizalunga.
Cette réunion qui s'est tenue dans les halls du gouvernorat avait pour but d'informer la population de cette deuxième phase des campagnes de vaccination, mais aussi y demander l'implication des autorités, comme l'a dit le docteur Estache Bibala, chef de division de la santé.
Le maniement a notifié plus de 85% des cas de polio dérivés du vaccin dans notre pays. Donc nous occupons pratiquement le cœur du problème dans cette république. Il est important que tout le monde puisse comprendre que c'est une urgence, que c'est un problème sérieux pour la communauté, parce que nos enfants sont sérieusement en danger et que nous devrions nous mobiliser pour que tous les enfants soient vaccinés.
Ce même message a été répercuté par l'autorité provinciale Afan Idrissa.
Les vaccinateurs passeront de porte à porte et partout où se trouveront les enfants cibles pour administrer deux gouttes de vaccin oral VPO afin de les protéger contre la poliomyélite en cas d'absence des parents. Prière, laisser les enfants sous la surveillance des membres de la famille ou d'un voisin pour qu'il soit vacciné.
Signalons que pour cette campagne de 3 jours, c'est la stratégie de porte-à-porte qui a été retenue pour toucher un maximum d'enfants. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le nouveau président somalien est en visite officielle au Kenya. Il est arrivé vendredi 15 juillet à Nairobi pour une rencontre avec son homologue Uhuru Kenyatta. La Somalie et le Kenya ont eu des relations conflictuelles ces dernières années. Cette visite dernière en date d'une tournée internationale du chef de l'État somalien Hassan Cheikh Mohamud signe donc la fin d'un climat de tension.
L'invité.
La ville de Beni au Nord Kivu vient d'être ciblée par 2 attaques armées attribuées aux combattants de l'ADF à l'intervalle de 4 jours. Qu'est-ce qui justifie cette situation et quelles sont les mesures prises par les autorités pour protéger la population? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Moutebakachalé, s'entretient avec Martial Papi Moukeba. Suivez.
Monsieur le maire de Beni, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé réellement la nuit du vendredi à ce samedi dans les quartiers Rwangoma?
En fait, nous avons une position en Belou, là où nos forces de défense, les vaillants FARDC, ont une position là-bas. Alors, ils ont été attaqués. Heureusement, ils ont été aussi rapides, ils ont riposté et il y a eu crépitement de coups de feu, ce qui a fait qu'il y a eu une perturbation et la population s'est déplacée en masse. Mais sinon, nous-mêmes, nous étions là de 23h, presque 10h, on a sillonné partout. Il y a eu la patrouille et tout est redevenu à la normale.
Quel est le bilan de cette attaque?
Jusque ce matin, on n'a rien comme bilan. Donc, nos forces sont en train de patrouiller la zone pour voir quel est le bilan que nous avons. Bon, jusque là, en tout cas, rien de grave, rien à signaler.
Certaines informations disent que la position de l'armée a été incendiée, comme également 4 maisons de population. Vous confirmez cela?
Je n'ai pas encore eu toutes les informations possibles, mais ce que je sais que la position de FARDC a été vraiment endommagée.
Il s'agit d'une deuxième attaque du quartier Rwangoma, oui, à l'intervalle de 4 jours seulement. Qu'est-ce qui justifie cette situation, ce qui n'était plus arrivé à la ville de Beni depuis plusieurs mois?
Écoutez, nos vaillants FARDC, ils avaient attaqué en amont leur camp. Ils ont récupéré des matériels et ils ont connu des pertes. Et maintenant là, ils sont à la recherche des médicaments. Donc ils étaient d'ailleurs, avant d'arriver à Rwangoma, ils étaient allés tenter de prendre les médicaments quelque part. Ils sont en train d'attaquer les hôpitaux, pharmacies, dispensaires, en cherchant les médicaments pour s'approvisionner. C'est comme ça qu'ils sont venus, lorsque nos vaillants FARDC les ont chassés de ce côté-là, voilà, ils se sont retrouvés du côté de Rwangoma, et là aussi, les FARDC, ils étaient au point. Donc, ils ont riposté valablement.
Mais c'est quand même un quartier situé au centre de la ville que vous administrez?
Oui, exactement, oui.
Pourquoi au centre de la ville? Et comment c'est aussi si facile comme ça pour les ADF?
Les ADF, j'ai toujours dit que c'est notre ennemi, on ne le voit pas. C'est une guerre asymétrie. Donc, nous, on ne le voit pas, nous, ils nous voient. C'est comme ça qu'il est confondu dans la population. C'est comme ça qu'à un moment donné, il est en train de s'infiltrer, de passer inaperçu pour tenter d'entrer dans la ville.
Vous confirmez également que les ADF voulaient attaquer la prison centrale Kangwaï de Beni?
C'est parmi les objectifs qu'ils cherchent à atteindre.
Et pourquoi cette prison est ciblée aujourd'hui?
Aujourd'hui parce que, vous savez, la prison de Kangwaï égorge les éléments des ADF. Donc ils sont en train de chercher par tous les moyens comment ils peuvent récupérer les siens.
Qu'est-ce qui empêcherait à ce que ces ADF-là soient transférés dans des prisons situées dans d'autres villes jugées les plus sécurisées?
Je crois que les autorités ils s'attellent sur ça. Je crois que l'un de ces quatre matins, nous aurons une solution peut-être dans ce sens-là.
Présentement, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour protéger la ville de Béni et rassurer la population?
Je vous dis et je vous assure que nos voyants FARDC, ils ont pris toutes les mesures possibles pour défendre la ville. La population doit continuer à nous faire confiance, à faire confiance à leur armée, parce que nous sommes là pour eux. Donc je demande à la population de rester très calme et d'être toujours vigilant comme ils sont en train de le faire, de dénoncer par-ci, par-là. Voilà, et que ça nous donne la force et elle est en train de nous accompagner.
Narcisse Mouteba Kachalé, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.